Bonjour et bienvenue dans le récap hebdomadaire de l'actu IA et coding. Cette semaine, une seule entreprise a monopolisé presque toutes les conversations. Anthropic. Claude Opus 88 est arrivé et il a littéralement inondé tous les canaux que je suis. AI Explained, World F AI, Nate Herc, Alex Finn, AI Matt Arnie. Tout le monde s'est plongé dans les 284 pages de documentation qu'Anthropic a publiées avec le modèle. Le verdict global ? Solide, mais pas révolutionnaire. Concrètement, Opus 88 améliore trois choses par rapport à son prédécesseur. L'honnêteté, la qualité du jugement et la capacité à tenir des sessions autonomes beaucoup plus longues. Sur le benchmark SBAVU Bench Pro, il passe de 64% à 69%. Et le nouveau Fast Mode coûte trois fois moins cher qu'avant, à prix de base identique à Opus 4.7. Deux nouvelles fonctionnalités concentrent l'essentiel de l'attention. Les Dynamic Workflows permettent d'orchestrer des milliers de sous-agents en parallèle. Marc Kachef l'a démontré de façon très concrète. Un rapport de due diligence à partir de plus de 70 documents, bouclé en 20 à 30 minutes, là où un humain aurait passé des heures. L'Ultra Code Mode, lui, active ses workflows automatiquement, ce qui est puissant, mais Nate Herc tire la sonnette d'alarme. Ce mode peut brûler une quantité massive de tokens par session sans que vous vous en rendiez compte. La gestion consciente du niveau d'effort est donc absolument indispensable. AI Meet Arnie a montré un autre exemple frappant. La simulation d'un robot à 6 pattes générée à partir d'un seul prompt. Impressionnant sur le papier, coûteux en pratique. Mais voilà où ça devient intéressant. Le consensus de la semaine est profondément divisé. Melvings a fait un test direct Opus 88 contre GPT 5.5 sur des tâches de code réel et il donne la victoire à Claude. Mais sur le nouveau Deep SWI Benchmark, que Melvings décrit comme plus représentatif des vraies tâches de software engineering avec des problèmes complexes et multi-étapes, GPT 5.5 écrase la concurrence à 70%. Contre 54% pour Claude Opus 4.7. Théo, sur T3GG, rapporte des expériences mitigées, des réponses plus honnêtes et plus rigoureuses avec Opus 4.8, mais aussi des hallucinations et des problèmes en CLI dans son usage quotidien. World of AI résume bien la situation. Opus 4.8 est un bon modèle, GPT 5.5 reste devant en productivité, vitesse et efficacité des tokens. En arrière-plan, le prochain chapitre est déjà en train de se dessiner. World FAI montre des traces concrètes du modèle phare Claude Mythos détecté sur Google Vertex AI et dans l'application Claude elle-même, notamment une représentation artistique d'un vaisseau spatial Saturne généré en Python et une solution au problème mathématique d'Erdős numéro 90, vérifié par un mathématicien de Harvard. Anthropic viserait une version allégée de Mythos dans les trois prochains mois. Du côté d'OpenAI, des fuites pointent vers GPT 5.6, attendu en juin, avec un meilleur raisonnement multi-étapes et des workflows agents améliorés. Et pour compléter le tableau anthropique, Théo a publié une analyse de la profitabilité surprenante de l'entreprise. La thèse, des partenariats multi-cloud stratégiques avec AWS, Google Cloud et Azure, contrairement à OpenAI qui dépend principalement d'Azure, combiné à une explosion de l'utilisation des tokens depuis le modèle Opus 4.5. Ça donne à Anthropic une position financière bien plus solide qu'on ne le pensait. En dehors du cycle Opus, les autres modèles de la semaine méritent qu'on s'y arrête. Gemini 3.5. Flash, présenté à la Google I/O, reçoit un accueil très froid de la quasi-totalité des créateurs. Plus cher que son prédécesseur, moins bon en coding qu'Opus 4.7 et GPT 5.5. Google a aussi présenté Gemini Omni, un modèle multimodal pour le montage vidéo par commande en langage naturel, séduisant sur le principe, mais pour l'instant limité aux vidéos générées par IA. World of AI mentionne des variantes Gemini 3.5 supplémentaires en préparation, dont une version X High Thinking avec un reasoning renforcé. Et Minimax M3 fait son entrée avec une architecture Sparse Attention qui promet une vitesse de traitement 10 fois supérieure et un décodage 15 fois plus rapide. DeepSeek V4 Pro, de son côté, a baissé ses prix de façon permanente, se positionnant agressivement comme une alternative compétitive à coût bien inférieur. Du côté de l'open source local, Tim Karamba d'Anything LLM a consacré deux vidéos au modèle d'image bonsaï de Prism ML, basé sur Flux 2 Client 4B de Black Forest Labs. La version ternaire du modèle ne nécessite que 3,7 Go de mémoire au lieu de 13 Go pour la version complète, et elle obtient les meilleurs résultats parmi les versions compressées. Karambat est honnête. Le modèle n'est pas encore assez mature pour être intégré dans Anything LLM, mais la direction est prometteuse. Neural9 a de son côté livré deux crash courses complémentaires. LangGraph pour l'orchestration d'agents en Python et MLflow pour le monitoring MLOps, qui couvrent ensemble une bonne partie du tooling Python pour les workflows agentiques. La vague de tutoriels pratiques autour de Claude Code a été particulièrement dense cette semaine. Léon Van Zyl a montré deux workflows complémentaires. Un pour débutants, Claude Code, Supabase, Hostinger, pour construire et déployer une app de suivi d'habitude de A à Z et un workflow avancé avec des diagrammes Excalidro, des audits de sécurité parallèles et la fonction loop pour l'amélioration continue de l'interface. Ben AI a présenté 12 plugins pour Claude Code, dont deux qui sortent du lot. Le Caveman plugin, qui compresse les textes jusqu'à 75% pour économiser des tokens, et The Printing Press, qui propose plus de 50 CLI préconstruites pour des logiciels sans API publique. Tech with Team a testé plus de 100 skills pour Claude Code et en a retenu 6. Parmi eux, le G-Stack, un bundle de 23 skills développés par Gary Tan, le CEO de Y Combinator, conçu spécifiquement pour les fondateurs et développeurs. Firecrawl pour le web scraping, Composio pour la gestion centralisée des outils et un Vibe Security Skill pour vérifier les vulnérabilités avant tout déploiement. Sur le terrain des agents de code non Claude, Nate Herc a passé 100 heures à comparer Claude Code et OpenAI Codex. Son verdict nuancé, Claude Code gagne sur le front-end et les tâches de planification complexes, Codex est plus efficace sur les tâches de recherche intensive et consomme moins de tokens. Théo, lui, décrit un vrai pivot personnel vers GPT 5.5 et Codex, motivé par des limites d'utilisation plus généreuses sur son plan à 200 $ et par l'avantage du remote coding. Pour ses code reviews, il utilise CodeRabbit et Macroscope. Il mentionne aussi Cursor Composer 2.5 de Codium, qu'il décrit comme une alternative remarquablement rapide et économique à GPT 5.5 et Opus 4.7, soutenue par une coopération en capacité de calcul avec SpaceX AI. Melvinx, de son côté, a testé Antigravity 2.0 de Google. Il le décrit sans détour comme une copie fonctionnelle, mais designée sans soin de codecs, avec une IDE instable et des performances Gemini en coding en dessous des attentes. Matt Pocock a exploré un Thermonuclear Code Review skill trouvé dans la communauté Cursor, qu'il a appliqué à ses 5 derniers pull requests sur son projet open source Sandcastle. Le skill trouve des problèmes structurels réels, fichiers trop volumineux, abstractions manquantes, duplications, mais Pocock critique sa longueur excessive et ses répétitions. Il recommande une version plus ciblée. Dans la même veine, il a documenté 9 erreurs fréquentes dans l'utilisation de ses propres skills GrillMe. Périmètre trop large, comportement passif face à l'agent, utilisation de modèles trop faibles. Fireship a consacré une vidéo à Jérémy Ashkenas, le développeur qui a créé Underscore.js, CoffeeScript et Backbone de JS à une époque où JavaScript était encore considéré comme une blague. Ces trois projets ont préfiguré des fonctionnalités qui sont aujourd'hui considérées comme évidentes dans le langage. Une belle histoire sur la façon dont des contributions individuelles peuvent reconfigurer un écosystème entier. Changement de registre complet maintenant. Hermès Agent a été le deuxième outil le plus discuté de la semaine, juste derrière Opus 4.8. Le Velocity Update V0.15 apporte quatre nouveautés majeures. Tool Search avec chargement progressif pour optimiser le contexte, un Agent Swarm System pour les sous-tâches parallèles, une refactorisation massive du code de 16 000 à 3 800 lignes, et un catalogue MCP centralisé. Alex Finn et Alejandro Ao ont montré l'installation et la configuration sur un VPS Hetzner avec Hugging Face, intégration Telegram et Cron Jobs automatiques. World of AI a aussi présenté OpenHuman, un agent desktop GPL3 avec stockage SQLite local, 118 intégrations, Gmail, Slack, GitHub, et la capacité de rejoindre et transcrire des réunions Google Meet, un concurrent direct d'Hermès avec une philosophie plus orientée vie privée. Colmedine a introduit le concept de Harness Engineering, la distinction entre l'optimisation à l'intérieur d'une session IA et l'orchestration de plusieurs sessions. Avec son outil Ralph Loop, il montre comment coordonner automatiquement plusieurs sessions en séquence, et il a démontré l'intégration de son outil open source Archon avec Jira. Chaque ticket génère sa propre conversation d'agent avec un workflow d'évolution en 12 étapes. Du côté de l'automatisation, Nate B. Jones a publié une réflexion importante cette semaine. Son point de départ, un agent Cursor qui a effacé une base de données de production en 9 secondes. Sa conclusion. L'analytique traditionnelle basée sur les clics et les sessions est totalement inadaptée pour surveiller les agents. Il propose 3 événements à traquer. Le démarrage d'un agent run, la complétion d'une tâche et les corrections faites par l'utilisateur pendant l'exécution. Il cite aussi l'exemple de Shopify et de son agent interne River, dont toutes les interactions se passent dans des canaux Slack publics. Une décision de design qu'il présente comme un modèle d'apprentissage organisationnel collectif. L'équipe NUTN a montré comment FullScript a construit plus de 1500 workflows en moins d'un an, avec plus de 100 en production, porté par un AI hackathon interne et un changement culturel vers People First, AI Powered. Un cas concret qui montre ce que ça donne quand l'adoption de l'automatisation est traitée comme un projet humain avant d'être un projet technique. Sur la création de contenu vidéo, Xfield permet désormais de produire des vidéos directement depuis Cloud via un connecteur MCP. Julian Ivanov a montré la création d'un court-métrage en passant par Seedance 2.0 pour la vidéo et Nano Banana pour les images. Le modèle CDE 2.0 est décrit comme cher mais de haute qualité. Du côté de la gestion des connaissances personnelles, Sébastien Dubois a présenté la version 4 de son Obsidian Starter Kit qui intègre pour la première fois un système complet d'assistants IA. Une réceptionniste centrale dirige vers des agents spécialisés. Productivité, santé, livres, idées, identité. Un système d'identité stocke l'histoire, le style de travail et les valeurs de l'utilisateur pour que l'IA ait un contexte personnalisé. La connexion à Cloud passe par le plugin Cloudion. Bart Slodiczka a montré en parallèle comment Cloud Cowork, à ne pas confondre avec le mode chat, permet d'automatiser complètement des tâches répétitives comme le filtrage d'emails et la création de tickets ClickUp grâce à des projets persistants et des instructions précises. Sur l'industrie et la stratégie, Nate B. Jones a publié une analyse des goulots d'étranglement qui freinent toute l'industrie IA. L'investissement annoncé de 186 milliards de dollars de Microsoft ne résout pas le vrai problème, parce que la rareté n'est pas dans les GPU. Elle est dans la mémoire à haute bande passante, le packaging des chips, l'alimentation électrique, le refroidissement et la capacité de construction des data centers. Tim Karambat a complété avec une critique acide des projets de data centers en Louisiane et du concept SPAN de serveurs décentralisés sur des propriétés privées qu'ils jugent tous deux peu transparents et difficiles à réaliser concrètement. Dave Ebelar a esquissé un chemin en 3 étapes vers le B2B AI SaaS. D'abord, construire une solution sur mesure pour un client avec un vrai problème douloureux, ensuite affiner avec 3 à 5 clients similaires, enfin transformer ça en produit autonome. Nate Herc a interviewé Devin Carnes, CEO de Custom AI Studio, qui avertit que beaucoup des projets IA vendus aujourd'hui ne survivront pas jusqu'en 2027 et plaide pour une facturation basée sur la valeur plutôt que sur le temps. Quelques mots sur les perspectives sociétales. Le format Everlast AI a apporté 2 angles lourds. Le premier, une analyse sans concession de la position économique de l'Allemagne face à la Chine. Coût énergétique, densité réglementaire, manque d'ouverture technologique comme freins principaux. Le second, les 5 niveaux de développement vers l'AGI selon OpenAI et les implications pour l'emploi, jusqu'à l'hypothèse des 100% de chômage si l'IA devient supérieure dans tous les domaines. Kyle Balmer apporte une perspective plus nuancée et opérationnelle. Les emplois ne disparaissent pas d'un coup, ils perdent progressivement certaines tâches. Il distingue les tâches exposées, rapprochement comptable, reporting, des tâches défendables, relations clients, jugement contextuel. Demi Hassabis, résumé par The AI Grid, dit quelque chose de similaire dans le fond. Les systèmes actuels sont assez puissants pour transformer des industries, mais ils n'ont pas encore la fiabilité ni la largeur cognitive de la vraie AGI. Et pour finir, quelques notes rapides. Google I.O. a aussi annoncé Gemini Spark, un agent personnel encore en bêta et uniquement disponible aux États-Unis, ainsi que des lunettes connectées en partenariat avec Samsung avec intégration Gemini. Du iGrid les voit comme potentiellement significatives pour l'usage IA du quotidien. Melvinks a testé Combi 2.0, un outil de design front-end avec un nouveau design mode pour créer des variantes d'interface directement intégrables dans VS Code et Convex. Il a aussi essayé Pi, un orchestrateur d'agents IA avec des éléments d'interface flexibles et un système de plugin, intéressant dans le concept, mais les coûts et la complexité ne sont pas encore au point selon lui. Et Neural9 a rappelé un piège classique Python. Utiliser un objet mutable comme argument par défaut partage cet objet entre tous les appels. La solution propre est d'utiliser none comme défaut avec une initialisation interne. Ce qui me reste de cette semaine, c'est une tension que personne ne résout vraiment. On construit des outils de plus en plus autonomes, capables d'effacer une base de données en 9 secondes ou de générer un rapport de due diligence.